Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous. C'est un petit événement pour 21 communes d'Auvergne. Les transports en commun seront gratuits tous les week-ends désormais à Clermont et dans son agglomération. Objectif de la mesure, réduire la place de la voiture. Dans ce journal, nous reviendrons sur la vente record de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis. Sur le front du Covid et de la cinquième vague, le monde du rugby n'attend pas d'éventuelles nouvelles consignes du gouvernement. Les joueurs non vaccinés sont priés désormais de se faire tester tous les jours. Une éolienne de 45 mètres d'envergure qui se casse la figure, ça s'est passé dans un champ, dans la Creuse.
Les invités de cette matinale, Karine, dans 10 minutes, 20 minutes d'ailleurs, vous recevrez.
L'ancienne porte-parole d'Attac, Aurélie Trouvé, elle a décidé de rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle a accepté de présider le nouveau parlement du candidat à l'élection présidentielle.
Et puis à partir de 8h20, notre invité, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est donc une petite révolution qui attend à partir d'aujourd'hui les 300 000 habitants de la métropole de Clermont-Ferrand.
Car à partir d'aujourd'hui, les transports publics seront entièrement gratuits le week-end. Plus besoin de tickets le samedi et le dimanche. Il suffit de monter dans un bus ou dans un tram. William Gay-Costa, bonjour.
Bonjour.
L'idée alors est donc née pendant la dernière élection municipale. Une mesure, William, pour limiter l'utilisation du véhicule personnel.
C'était une promesse de campagne du maire de la ville, Olivier Bianchi, qui a dû embarquer avec lui les autres élus de la métropole. Olivier Bianchi, au micro de France Bleu, Pays d'Auvergne.
Le coût de l'opération, c'est 2,1 millions par an pour le week-end. Il faut le partager, puisque si ça avait été que la ville de Clermont qui l'avait payé, comment on aurait fait pour dire vous êtes clermontois, vous n'êtes pas clermontois? Donc il fallait convaincre les 20 autres maires de la métropole de rejoindre le dispositif.
Cette gratuité partielle a pour but de réduire la pollution de l'air, les nuisances sonores et de faciliter les déplacements.
Et de nombreuses villes françaises, William, ont déjà sauté le pas.
Oui, plus d'une trentaine, parmi elles Dunkerque, exemple emblématique. L'ensemble du réseau de transport public y est gratuit tous les jours depuis 2018 pour les 200 000 habitants de l'agglomération. Et selon le maire Patrice Vergritte, c'est une réussite avec deux fois plus de voyageurs en semaine, quasi quatre fois plus le week-end, un bilan écologique positif et un impact social notable.
Il y a un nouveau mot qui est apparu à Dunkerque, on connaissait le copain de carnaval. Maintenant, il y a le copain de bus. Ça peut être la personne qu'on a connue dans le bus parce qu'il monte à la même heure, au même arrêt. Donc c'est un nouveau concept qui est apparu que je trouve évidemment extrêmement riche.
Après 3 ans, la fréquentation des transports dunkerquois continue d'augmenter et le modèle convainc de plus en plus de villes. Le 1er janvier, ce sera au tour de Douai, dans le Nord, de rendre son réseau complètement gratuit.
William Gay-Costa, merci. La tournée express d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le chef de l'État est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite au lendemain de son étape aux Émirats Arabes Unis. Hier à Dubaï, les Émirats ont signé l'achat de 80 Rafales, une commande record pour l'avion de chasse français. Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie, souligne que la France ne se présente jamais comme un simple vendeur d'armes, mais parle de partenariat stratégique. Et puis son positionnement politique dans le monde arabe lui a été très utile pour obtenir ce contrat.
On le voit bien à travers les pays qui ont déjà acheté le Rafale, je pense notamment à l'Inde ou à la Grèce. Et là, dans cette région, c'est tout à fait patent, puisque la France a des alliances et des clients dans cette région. Et si la France est choisie, par rapport notamment aux Américains, c'est qu'il y a un peu une baisse d'influence des États-Unis depuis plusieurs années. Et en revanche, la cote de la France est assez élevée, d'abord parce que le Rafale est un bon avion, parce qu'il y a une diplomatie française qui est assez active, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là. Et enfin, il y a une dernière chose qu'il faut rappeler. Mine de rien, la prise de position de la France en 2003, la France de Jacques Chirac, contre l'invasion de l'Irak, est quelque chose qui est mis au crédit de la France depuis très longtemps et qui explique pourquoi la France, ces dernières années, notamment sur les dossiers irakiens ou face à l'Iran, a toujours eu une certaine cote de popularité du côté des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite et du Qatar. C'est tout cet ensemble de choses qui débouche sur ce contrat extrêmement important.
Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie avec Bertrand Galichet. Puis le chef de l'État a ensuite rejoint le Qatar dans la soirée pour s'entretenir avec l'émir Altani. C'est avec l'aide du Qatar que la France a évacué hier soir 258 Afghans de Kaboul, arrivés à Doha. Ils arriveront en France en fin de semaine prochaine. Ces personnes étaient menacées par les talibans en raison de leurs engagements ou de leurs liens avec la France.
La cinquième vague de Covid-19 continue sa progression en France. 50 000 nouveaux cas déclarés déclarés en 24 heures.
11 103 patients hospitalisés, dont 2058 en service de soins critiques, des entrées en réa en augmentation de 26% par rapport à la semaine dernière, une majorité de non-vaccinés. Dans 10 régions sur 13, le nombre d'admissions hebdomadaires à l'hôpital est déjà supérieur au pic de la quatrième vague. Et c'est dans ce contexte de tension hospitalière que les soignants de toute la France vont venir manifester cet après-midi devant le ministère de la Santé à Paris. Une question à 3 semaines de Noël, y aura-t-il des restrictions supplémentaires pour limiter les contaminations? Ce n'est pas exclu, on en saura davantage la semaine prochaine, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire programmé lundi, sachant que nos voisins belges ont décidé d'avancer d'une semaine les vacances de Noël des maternelles et des primaires, que l'Irlande a refermé ses discothèques et rétabli la distance physique dans les pubs, les restaurants et les hôtels.
Et le monde du rugby, il n'attend pas les consignes pour revoir son protocole sanitaire.
Des rencontres annulées en fédéral, en national, des équipes galloises bloquées plusieurs jours en Afrique du Sud après plusieurs cas positifs. La menace du Covid refait surface en rugby. Alors pour éviter au maximum que des matchs du top 14 et de Pro D2 soient reportés dans un calendrier déjà surchargé, la Ligue nationale de rugby a pris des décisions, et notamment Fanny Lechevestrier vis-à-vis des joueurs non vaccinés.
Des joueurs non vaccinés qui doivent désormais se faire tester tous les jours, indique la Ligue, qui insiste tout de même sur le taux de vaccination dans le top 14, près de 97%. La plupart des clubs ont également rétabli les protocoles de la saison dernière. Port du masque obligatoire à l'intérieur pour tout le monde, sauf durant les périodes d'efforts. Rétablissement également, dès que possible, des règles de distanciation, explique Hugo Mola, le manager du Stade toulousain.
C'est vrai que notre exposition auprès de nos supporters, de notre public, va être un peu contraint ces prochaines semaines. On va faire attention à nous, on va faire attention à pour se donner encore une fois avec ce qu'on peut maîtriser, le plus de chances possible.
Pas le choix de faire autrement, surtout que dans une semaine, c'est la Coupe d'Europe qui débute. Et là, les mesures s'annoncent encore plus drastiques avec des tests PCR dans tous les sens. Sébastien Bouboule, l'entraîneur des arrières de La Rochelle, préfère prendre cela avec philosophie.
Nos narines sont en manque un peu de ces tests PCR, donc on est content de le refaire. Ça nous fait bizarre de reprendre un coton, mais voilà, pour le moment, tout roule.
Et il faudrait mieux que cela continue ainsi, car l'organisateur des Coupes d'Europe a prévenu, il n'y aura aucun report de match possible. Ce sera défaite sur tapis vert en cas de cluster dans une équipe.
Fanny Lechevestrier, la politique, plus que quelques heures avant de connaître le nom du candidat LR à la présidentielle. Les militants jusqu'à 14h pour départager Éric Ciotti, arrivé en tête du premier tour, et Valérie Pécresse.
Une pâle d'éolienne qui se décroche, eh bien ça n'arrive pas tous les jours.
Et c'est ce qui s'est produit pourtant hier près de la Souterraine dans la Creuse. L'immense bras métallique de 45 mètres de long qui pèse 3 tonnes s'est retrouvé au beau milieu d'un champ, cassé évidemment. Le récit signé Marie-Jeanne Delepol de France Bleu Creuse.
C'est un immense bras métallique de 47 mètres de long et qui pèse 3 tonnes. Quand une habitante de la Souterraine l'aperçoit au beau milieu d'un champ, elle a du mal à en croire ses yeux. Et pourtant oui, c'est bien une pale d'éolienne. L'agriculteur propriétaire de la parcelle ne sait pas si elle est tombée jeudi soir ou vendredi matin. En tout cas, une chose est sûre, elle s'est cassée sans faire de blessés. Aussitôt, l'agriculteur prévient la société qui gère le parc. Il contient 4 éoliennes installées à cheval entre la Souterraine et Saint-Agnan de Versilla. Et l'exploitant doit envoyer des agents sur place ces prochains jours. Alors, en attendant, on ne sait pas ce qui a causé cette chute. L'agriculteur nous explique que ça a beaucoup soufflé ces derniers jours. Mais une éolienne qui casse à cause du vent, ce serait quand même un comble.
Oui, ce serait fâcheux. Le Panthéon ouvre ses portes gratuitement tout le week-end. L'opportunité pour le grand public de découvrir ce temple de la République, où est entrée cette semaine Joséphine Baker. Et sans doute, une nouvelle génération de Français va pouvoir s'approprier cette star aux mille et une vies. Et cela passe peut-être par les produits dérivés. L'entreprise Sagou détient les droits de la marque Joséphine Baker depuis 25 ans, en accord avec les héritiers de Joséphine Baker. Aujourd'hui, il existe peu d'objets, mais Véronique Pichon, cofondatrice de Sagou, pense que la panthéonisation va changer la donne.
Il y a principalement des opérations qui ont été faites aux États-Unis. On a des collections de produits qui sont en hommage à Joséphine. Il y a une cuvée de vin rouge, il y a une poupée collectible, il y a quelques produits dérivés un petit peu ça et là. Il n'y a pas grand-chose non plus. Une collection de timbres, par exemple, qui a été faite par l'US Postal il y a quelques temps déjà. On a une collection de timbres qui sort ici avec la Poste. Donc, elle était en train de tomber un petit peu dans l'oubli pour la jeune génération. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement important, justement, pour la faire revenir. Et je pense que le principal enjeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'elle redevienne visible auprès de cette jeune génération. C'est, pour moi, en tout cas, c'est très, très important. Les enfants partagent la même idée. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est une mise en lumière qui va nous aider considérablement. Et on a déjà quelques marques, encore une fois, je ne peux pas nommer là tout de suite, mais qui ont déjà manifesté leur intérêt pour faire des collections de produits à partir de 2022. Donc, comme quoi, les choses vont effectivement changer de ce point de vue.
Véronique Pichon, cofondatrice de Sagou avec Béatrice Duguay.
Merci Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
On va le dire clairement, Jean-Michel Golinski, hein, ça va être une journée perturbée. Hein.
Exactement, avec partout un vent sensible, jusqu'à 70 dans l'intérieur, 90 près de la Manche, de l'océan et sur les Caps Corses, ceci donnant une mer agitée à forte. Les régions situées au sud d'un axe Gironde, Limousin-Lorraine vont conserver ce matin comme cet après-midi un ciel maussade avec des pluies faibles en plaine mais beaucoup plus marquées en montagne, où la limite pluie-neige va s'abaisser ce soir entre 5 et 800 mètres. Et puis à noter le risque d'avalanche toujours marqué sur l'ensemble des massifs. Sur le quart nord-ouest, le ciel sera beaucoup plus variable, souvent ponctué de courtes éclaircies, avec à l'intérieur pas mal d'averses, voire même de l'orage à proximité des côtes. Le tout dans les températures maximales de 6 à 9 degrés dans la moitié nord, 10 à 14 dans le quart sud-ouest et 14 à 16 de la Côte d'Azur à la Corse.
Jean-Michel Golinski, Météo France.